Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Barthas pour une nouvelle chronique d'Antidote. Et aujourd'hui, on va continuer notre série autour des auteurs, des penseurs vraiment critiques dont je trouve des présentations dans l'ouvrage Radicalité. Alors, peu d'entre vous, je pense, connaissent ou même ont entendu parler de Christopher Lasch. Contrairement aux auteurs de mes chroniques précédentes, George Orwell et Simone Veil, dont au moins les noms, si ce ne sont les œuvres, sont connus d'un assez large public, Christopher Lasch fait partie de ces auteurs presque totalement méconnus en France. Non pas seulement parce qu'il vivait aux États-Unis, d'autres auteurs d'outre-Atlantique sont bien connus chez nous, mais plus sûrement parce que sa pensée iconoclaste, inclassable, a dû en déranger plus d'un. Et c'est à Jean-Claude Michéa que nous devons en France la découverte de Christopher Lasch au-delà d'un petit nombre d'initiés, avec la publication aux éditions de la collection Chants de Flammarion de plusieurs de ses ouvrages à partir de 2006. Qui était donc Christopher Lasch? Quelle pensée, quelle analyse a-t-il développée? Et que nous dit cette pensée par rapport au monde dans lequel nous vivons? C'est ce que je vais tenter de vous présenter. Né en 1932, Christopher Lasch suit sa formation à Harvard et se spécialise en histoire. Dès les années 60, à travers l'histoire du radicalisme américain, il va soumettre à la critique les idéaux progressistes du libéralisme. Mais c'est dans les années 70 que ses travaux sur la transformation de la famille américaine, allant totalement à l'encontre de l'air du temps, vont faire de lui un intellectuel à la fois influent et controversé. Pris à partie par la gauche libérale, il ira même jusqu'à être récupéré par les conservateurs droitiers. Mais cela n'empêche pas Lasch de poursuivre sa réflexion en se tenant à distance du clivage entre progrès et réaction. Il va ainsi bâtir une œuvre critique de premier plan pour saisir à la fois ce que le capitalisme fait de nous et la façon dont nous le fabriquons en retour. Toute son œuvre repose en effet sur une analyse se situant à l'intersection entre le psychique et le social, en partant du postulat freudien que la psychologie individuelle est toujours déjà une psychologie sociale. Il produit tout au long de son œuvre un diagnostic implacable sur la transformation de la personnalité sous le capitalisme consumériste. Je vais donc vous présenter maintenant quelques idées clés de la pensée de Christopher Lasch. Alors, le premier cursus de pensée, d'idées autour de Christopher Lasch tourne autour de la question du narcissisme. Lasch part du postulat que l'on ne peut saisir les mutations de la société contemporaine si l'on ne s'intéresse pas au type de personnalité qu'elle sécrète et qui la soutient en retour. Dans son livre « La culture du narcissisme » paru en 1979, reprenant à son compte l'analyse du narcissisme que Freud avait développée précédemment, en 1914, Lasch en retient que l'état narcissique exclut la référence à un réel dans l'idée que le réel impose des limites à la satisfaction des désirs et l'état narcissique repose sur le brouillage des frontières entre le moi et le non-moi. Ainsi, Christopher Lasch définit le narcissisme comme le fantasme humain de l'omnipotence et de l'indépendance absolue. Narcisse n'est pas l'égoïste qui affirme son caractère face et contre les autres, mais, et c'est bien là sa signification mythologique, Narcisse tombe amoureux de sa propre image et projette en elle ses angoisses pour combler son vide intérieur. Ainsi, Narcisse ne peut pas vivre sans instrumentaliser les autres afin qu'ils lui renvoient une image d'individu performant, adapté. En retour, il devient nécessairement entrepreneur de sa propre existence dans une perspective temporelle inévitablement courte, car toute relation pérenne l'exposerait à dévoiler des failles, à endurer des résistances de la part des autres et du réel, et donc à limiter les gratifications qu'il en attend. Loin donc de ramener le narcissisme à un simple égoïsme, Lash cherche à saisir comment la société contemporaine produit de plus en plus d'individus fébriles et inaptes à accepter les résistances que la réalité oppose à leur désir de toute puissance. Il nous explique en quoi le narcissisme contemporain succombe nécessairement au fétichisme de la marchandise tel que l'avait décrypté Marx. À l'intérieur d'un système dont le moteur est la croissance de la valeur marchande, le fétichisme désigne l'état de dépendance de l'humanité à l'égard de ce qu'elle a elle-même créé. Or, une subjectivité vide, peu affirmée, craintive face à la dépendance, donc une personnalité narcissique, trouve dans l'univers fantasmatique de la marchandise un réconfort quasi maternel par régression au stade infantile du sentiment d'omnipotence. Et on retrouve cette même personnalité narcissique à l'œuvre dans d'autres domaines. Dans les rapports du travail, il s'agit de faire valoir une image de gagneur pour s'attirer des faveurs temporaires, des gratifications immédiates, au lieu de cultiver un savoir-faire de métier. Dans le rapport entre les sexes, l'engagement, le lien et le conflit deviennent de plus en plus d'intolérables atteintes à la gestion hédoniste de sa propre vie. Dans le rapport à la nature, cela va être l'attitude faustienne cherchant une maîtrise rationnelle totale. Et ce que souligne Christopher Lash, c'est que le capitalisme contemporain se trouve ainsi soumis à un paradoxe. D'un côté, il est le produit d'une rationalité instrumentale qui s'étend à presque tous les domaines de l'existence. D'un autre côté, il sécrète des types psychologiques dominés par des fantasmes régressifs. Autre idée centrale dans le travail de Christopher Lash, et c'est peut-être la partie qui va être la plus controversée, concerne sa critique du démantèlement de la famille. S'appuyant sur la psychanalyste freudienne, Lash s'attaque à l'histoire de la décomposition de la famille et à ses conséquences psychologiques dans un ouvrage paru en 1977, Un refuge dans ce monde impitoyable. Pour lui, l'attaque en règle contre ce pilier prétendu du conservatisme qu'est la famille, avec les critiques qu'on lui porte, reproduction de l'aliénation patriarcale, puritanisme castrateur, rapport conflictuel entre ces mondes, n'aboutit en fait qu'à renforcer l'aliénation des individus. En effet, la mise en coupe réglée de la famille en tant que foyer de transmission de valeurs et de pratiques étrangères à la rationalité marchande, à livrer la famille aux diverses influences du marché et également des professionnels de l'assistanat. Toute son analyse repose sur le fait que le démantèlement des structures psychiques de l'autorité ne conduise en rien à une affirmation créative du désir et de la spontanéité enfin délivrés de leurs limitations. En réalité, ce démantèlement dépossède la psyché humaine de toute direction pour se construire en lui ôtant la possibilité de faire l'épreuve d'une réalité déjà constituée. Or, si l'individu en devenir se trouve livré à ses seules pulsions de gratification, désormais constamment stimulées, sans aucun cadre pour les canaliser et les rendre constructives, il y a de fortes chances qu'il le retourne contre lui-même sous une version bien plus agressive et culpabilisante. Et c'est bien là que se trouve, selon Lash, le berceau de la personnalité narcissique. Je vous propose une petite pause musicale et je vous retrouve juste après.
Dark horse racing along. tell me why. Is it hard to make arrangements with yourself when you're old enough to repay but young enough to
Alors nous retrouvons Christopher Lasch et encore une de ses cursus d'idées. Il a développé l'idée que les valeurs populistes pourraient être une résistance au narcissisme. Alors, il convient ici de ne pas se méprendre sur la position de Lasch. On ne trouvera pas chez lui une apologie du retour au repère ou du rétablissement de l'autorité qui ne sait qu'interdire face à une société permissive infantile. Pour lui, la permissivité et la peur du conflit d'une part, l'autorité qui ne sait qu'interdire d'autre part, forment deux faces d'une même médaille. Aux yeux de Lasch, un ordre humain conforme aux idéaux révolutionnaires de liberté, d'égalité et de décence n'est possible que si les individus cultivent la modestie face à la vie, la loyauté dans leurs rapports et un esprit général de gratitude. Et ces recherches l'amènent à penser qu'on peut trouver ce fond de valeur dans le populisme américain, dont il retrace les origines et les luttes dans son ouvrage paru en 1971, « Le seul et vrai paradis ». Il rend ainsi au populisme sa vigueur critique face aux promesses du progrès capitaliste. Ce regard historique de Lasch n'incite pas à la nostalgie passéiste pour un temps révolu. La nostalgie n'est pour lui que l'autre face de l'idéologie progressiste vers laquelle on se tourne lorsque cette dernière n'assure plus ses promesses. Par contre, il revendique la mémoire quand elle vivifie le lien entre le passé et le présent, en préparant à faire face avec courage à ce qui nous arrive. Et j'en arrive donc au dernier point de la pensée de Christopher Lasch que je souhaitais développer ici. C'est son questionnement par rapport à la démocratie. Dans son dernier ouvrage, publié à titre posthume en 1995, « La révolte des élites », Lasch pose cette question déterminante. La démocratie mérite-t-elle de survivre ? Pour Lasch, les valeurs du narcissisme, développées dans le cadre d'un système capitaliste et qui, à leur tour, permettent à celui-ci de perdurer, sape totalement la possibilité même d'un mode de vie démocratique. La passivité intégrale requise par le fonctionnement de la démocratie parlementaire et électorale se double de l'acceptation d'une éthique visqueuse de la tolérance où tout un chacun se voit invité à montrer sa différence propre dans un univers où tous les avis, toutes les mœurs et tous les comportements peuvent être revendiqués. Dans un court ouvrage, Culture de masse ou culture populaire, il montre comment l'idéal d'égalité démocratique s'est construit sur le rejet de tout particularisme et sur toutes sortes de déracinements, pour reprendre le terme de Simone Veil, sapant ainsi les valeurs mêmes sur lesquelles pouvait reposer la démocratie, les solidarités ordinaires, l'amour du travail bien fait, la confiance en soi que confèrent des liens de sociabilité avec des pairs, des collègues et les générations précédentes. Il faut redire ici qu'en aucun cas l'âge ne propose une crispation sur la communauté isolée, sur un passé idéalisé ou sur le retour des traditions. Mais pour lui, des normes démocratiques ne peuvent s'édifier à partir du déni des cultures populaires qui laissent les individus sans repères et vision constructive de la vie. Il considère les particularismes comme autant d'antidotes à l'indifférenciation de la vie marchande. Répondant donc à sa question « La démocratie mérite-t-elle de survivre ?», l'âge nous dit que si la démocratie doit survivre, ce n'est pas comme procédure technique, mais comme expérience quotidienne impliquant le don, l'association et la coopération. Christopher Lasch n'a jamais renoncé à l'espoir d'une démocratie radicale. Elle devrait, selon lui, favoriser le soin de la terre contre l'exploitation des ressources naturelles, la sociabilité primaire, famille, amis, voisinage, contre les rapports abstraits du travail, une vision romantique de l'individu opposée à son enrégimentement technicien, et enfin, le localisme face au centralisme. Alors pour conclure cette chronique, je dirais que si la pensée de Lasch mérite bien sûr d'être recontextualisée, elle est à mon sens plus que jamais un outil de réflexion indispensable à la compréhension de la société actuelle. Je ne saurais donc que vous encourager à vous plonger dans la lecture des écrits de Christopher Lasch. Vous trouverez plusieurs de ses ouvrages auprès du fonds documentaire De Savoir en Chantier, qui est situé dans les locaux de L'Encrier à Florac, et bien entendu, vous pouvez vous les procurer auprès de votre libraire. Je vous rappelle également les coordonnées des deux articles qui m'ont aidé à réaliser cette chronique. Le premier, c'est intitulé Christopher Lasch, le culte du narcissisme, a été écrit par Renaud Garcia dans l'ouvrage Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques, paru en 2013. Et le deuxième, toujours de Renaud Garcia, Christopher Lasch, dans l'ouvrage 50 penseurs aux origines de la décroissance, paru toujours aux éditions L'Échappée en 2017. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Christopher Lasch. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine chronique où je vous inviterai à découvrir ou redécouvrir l'œuvre de quelqu'un dont on connaît souvent le nom, mais rarement l'œuvre, Herbert Marcuse. Et notamment, je vous proposerai de le découvrir à travers de son ouvrage le plus connu, qui date de 1964, « L'homme unidimensionnel, essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée ». Je vous dis à très bientôt.